Voilà, nous revoilà réunis dans ce cycle d'émissions dans la Voix des chrétiens sur le thème de la résurrection pour notre quatrième et dernière émission. Nous avons déjà vu ce qu'était la résurrection pour le peuple juif à l'époque de Jésus. Nous avons vu ce qu'était l'enseignement de Jésus sur la question de la résurrection, comment s'était déroulée la résurrection de Jésus. Nous avons évoqué la résurrection de la chair et ce qu'il fallait en penser. Nous voilà maintenant réunis pour la dernière émission sur la résurrection, étant précisé que vous pourrez écouter les émissions précédentes en podcast. Je pense que notre radio vous offrira cette possibilité. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce qu'est, ça concernera beaucoup de personnes, la question de la prière pour les morts. Notamment, faut-il prier pour les morts? Et que doit-on penser du purgatoire? Père Labro, on vous laisse la parole.
Alors je pense qu'il faut partir de qu'est-ce que le purgatoire? C'est l'état de ceux qui meurent dans l'amitié avec Dieu, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore besoin d'une certaine purification pour entrer dans la béatitude du ciel et pour s'ajuster à Dieu. En vertu de la communion des saints, les fidèles qui sont en pèlerinage sur la terre peuvent prier pour leurs frères morts. Ils peuvent les aider ainsi à avancer en sainteté en offrant pour eux des prières de suffrage ou en accomplissant des gestes de partage et des œuvres de pénitence en solidarité, en somme. Nous avons à vivre une vraie solidarité en raison de cette communion des saints. Ce que nous appelons la fin du monde aura pour conséquence une résurrection totale et achevée de tous et de chacun. Ce sera l'achèvement de la résurrection de Jésus inaugurée le jour de Pâques. Mais alors, faut-il prier pour les morts? La Bible, il n'est pas question de purgatoire, mais dans l'Ancien Testament, déjà, on parle de prière utile pour les morts. Il est utile de prier pour les morts. Par exemple, dans Judas Maccabée, au deuxième livre, Judas Maccabée a organisé une prière et même un sacrifice pour des soldats morts au combat et que l'on soupçonnait d'apostasie. Alors, c'est une belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré la résurrection pour ses soldats tombés, il était superflu de faire pour eux cette prière ou ce... Oui. Mais envisager la magnifique récompense réservée à ceux qui se sont endormis, c'était là une pieuse et sainte pensée. Au deuxième livre de Maccabée, donc au chapitre 12e. Le rédacteur du livre des Maccabées loue Judas Maccabée pour trois choses. Son espérance en la résurrection, son espérance de pardon de Dieu pour ceux qui sont morts dans une situation douteuse, et enfin sa conviction qu'il existait une communion entre les vivants et les morts qui permet aux uns d'intercéder pour les autres. Et nous retrouvons alors plus près de nous, dès 258, Saint Cyprien parle de la liturgie qui fait état d'une prière pour les défunts en temps de persécution. Ou encore Cyril de Jérusalem en 386 donne un double sens à cette commémoration des défunts, nous recommander à leur intercession et intercéder pour eux dans l'Eucharistie. Nous ne savons pas qui peut intercéder pour nous ou qui a besoin de notre intercession.
Père Jean, sur cette question de la prière pour les morts.
Alors l'Église orthodoxe prie en effet pour les morts. Et que ce soit l'office d'enterrement, ou ce qu'on appelle les paniquides, appelons ça l'office des requiem, pour être plus compréhensible pour nos auditeurs. Toutes les prières sont des prières, je dirais, de supplication. De supplication où l'Église demande à Dieu, là-bas, de venir en aide pour ceux qui nous ont quittés. La prière pour la mort est tellement importante que ce n'est pas pour rien qu'en principe, on fait l'enterrement le troisième jour, si possible. Bien sûr qu'il y a une relation avec les trois jours au tombeau du Christ. Mais dans la pensée ancienne, telle que nous le pensons, c'est que nous prions le troisième, le septième, le douzième et le quarantième jour. Nous faisons un office sur la tombe ou à l'église. Toujours des prières de type supplicative, pardonnez-moi la formule, supplicative. Il n'y a pas d'indulgence, entre guillemets, hein, qui répare, enfin, je ne sais pas quoi, ça n'existe
supplicative,
pas.
Supplicative, alors expliquez pour les auditeurs peut-être ce que...
Mais je ne vais pas revenir, j'ai fait une petite mention sur, d'ailleurs, ce que Luther a condamné, n'est-ce pas, par le passé, c'est pas vieux, et je suis persuadé que les personnes qui m'entendent, qui ont déjà un certain âge, se rappellent que dans l'Église catholique, on priait le premier vendredi du mois, il était demandé de se confesser, de communier, de dire une prière prévue, et vous aviez une indulgence plénière que vous pouviez octroyer, j'ai connu ça dans ma jeunesse, que vous pouviez octroyer à un défunt, s'il était au purgatoire, eh bien, il était délivré, etc. Voilà. Alors, ça n'existe pas, ça, chez nous, c'est pas possible, voilà. Hein? Alors, donc, si vous voulez, les prières sont toujours supplicatives, hein? On demande...
Voilà, bon, voilà. Le terme supplicatif, il faut l'expliquer aux auditeurs.
Voilà. Alors, nous prions le troisième jour parce que nous considérons, enfin, ça remonte à la nuit des temps. Mais je trouve que, même dans les temps modernes, on parle de faire le deuil. Des fois, on ne peut pas faire le deuil, et les gens ne peuvent pas faire le deuil, etc. Et je crois que c'est une façon de faire le deuil. Il est sous-entendu que séparation, entre guillemets, du corps et de l'âme, mais l'âme, pendant les trois jours, se trouve encore là. Qui fait que lorsque le prêtre vient le deuxième ou le troisième jour faire un office à la maison ou devant le corps, il est sous-entendu que l'âme n'est pas séparée totalement, n'est pas toujours dans le secteur. En conséquent, le prêtre donne, dans la mesure où il le juge utile, et la plupart du temps on le fait, il y a une absolution générale, particulière, très forte, que différente des absolutions ordinaires. C'est une grande solennelle devant le corps. Les catholiques ne le font pas, n'est-ce pas ? Nous le faisons parce que nous considérons que l'âme n'est pas partie encore et qu'elle était encore comme si elle était vivante. Voilà. Hein. Et ça lui permet de prendre son chemin. Le septième jour, elle est sur le chemin. On prie pour elle. Le douzième jour, elle arrive à un embranchement. Elle ne sait pas quel chemin prendre. Et le quarantième jour, elle se trouve devant la face de Dieu. Donc, on fait toujours des offices. Vous voyez, c'est des étapes. Vous voyez, c'est des étapes. Bon, j'en dis pas plus. Par rapport au purgatoire, l'Église orthodoxe n'a pas de purgatoire. Là, nous sommes proches, ou ils sont proches de nous, parce qu'on l'a toujours maintenu, n'est-ce pas ? On l'a toujours parlé. Alors on dit, oui, mais alors, on prie pour les morts, mais alors, il se trouve, entre guillemets, où Hein, c'est un état, hein, c'est pas un lieu. Mais ça, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Je ne sais pas. S'ils ne sont pas devant Dieu, s'ils ne sont pas encore devant Dieu, eh bien, l'Église orthodoxe n'a jamais sous-entendu qu'il y avait un purgatoire. D'autant plus qu'elle s'appuie que dans...
Ils sont en chemin, quoi. C'est pas une période de purification.
Voilà, ils sont en chemin. Sur un chemin de purification.
Bon, ça ressemble quand même à cette période de purification de l'Église catholique. Pour ce qui, alors, par contre, de l'Église réformée, là, Erizo, il faut nous expliquer... si on prie pour les morts et que représente pour l'Église réformée cette, l'éventuel purgatoire.
Déjà, pour, par rapport au purgatoire, l'Église protestante, l'Église réformée, aujourd'hui, et d'ailleurs depuis Luther, ne croit pas en l'existence d'un purgatoire. Mais la question de la prière pour les morts, ça aussi, Luther a remis cette notion-là en question. Et la théologie protestante s'exprime très peu à ce sujet. Par ailleurs, à titre individuel, là je porte mon avis, dans la Bible, c'est une pratique qui est aussi questionnée à mon sens lorsque Jésus prononce sur les morts. Un des disciples, vous vous souvenez certainement d'un des disciples qui a été appelé pour le suivre, Jésus. Au moment de cet appel-là, le disciple en question avait des défunts dans sa famille. Il disait à Jésus, laissez les morts enterrer leurs morts et venez me suivre. Ce que j'entends à partir de ce verset-là, c'est que, et je le concède, ça ne parle pas directement de la prière pour les morts, mais ça indique néanmoins que l'essentiel se joue lors de notre vivant. Mais en même temps, est-ce que les morts ne sont pas vivants ailleurs et aussi autrement? Si nous croyons la résurrection des morts, on dit bien on ressuscite un mort et non un vivant. Et nous prions et nous croyons en la résurrection des morts. Mais qui sont pour nous, malgré tout, vivants ailleurs et autrement. Ce que je veux dire par là, et là j'en viens à la pratique actuelle des enterrements et des services d'action de grâce que nous célébrons dans l'Église unie. Le service d'action de grâce, le culte lors des enterrements, dans la théologie protestante, c'est d'abord tourné uniquement pour les vivants. Donc les membres de famille qui sont restés.
Et... C'est plus une consolation, finalement, que...
Il y a une partie où on rend grâce pour la vie du défunt, de l'amour qu'il a apporté, du témoignage qu'il a apporté, du travail qu'il a accompli sur cette terre, des relations témoins de l'évangile qu'il a pu vivre dans ce monde. Et de confier aussi les vivants pour la suite, de pouvoir vivre, faire le deuil, vous l'avez dit, Père Jean, faire le deuil, c'est-à-dire de trouver la force de vivre sans la personne partie. C'est pourquoi le culte des enterrements, pour les enterrements, sont résolument tournés pour le vivant. Ce qui indique que le sort de la personne partie lui appartient, c'est seulement entre Dieu et la personne, et ce qui est décisif, c'est nos choix de notre vivant. C'est ce qu'indique cette compréhension-là de la mort. Mais aussi, il faut dire que depuis quelques années, mes prédécesseurs, autour du 1er novembre, organisent un culte pour les familles en deuil de l'année passée. Et je me suis inscrit dans cette célébration-là aussi, mais en vue de l'accompagnement des personnes endeuillées dans l'année passée.
Je reçois régulièrement deux revues protestantes, celle de la paroisse de Montauban et de Toulouse, et j'aime beaucoup cette formule lorsqu'il y a les défunts, l'évangile de la résurrection a été annoncé, voilà,
lors du culte de
un tel voilà, je trouve que c'est voilà, il y a au moins ça qui est...
Deux petites citations. Je voudrais apporter deux petites citations. Celle de Saint Irénée. Saint Irénée qui dit « Si la chair ne devait pas être sauvée, le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair. Pourquoi aurait-il pris en lui une humanité charnelle s'il devait l'abandonner à la corruption ?» Mais au plus proche de nous, j'ai relevé la réflexion d'un enfant qui avait demandé à son papa, enfin, qu'est-ce que c'était la mort, qu'est-ce qui se passait après la mort, et le papa avait dû lui dire que c'était la fin. Et l'enfant dit, quand on est mort, alors c'est pour la vie, C'est formidable, parce que c'est pour entrer dans la vie de Dieu. C'est
exactement. La vérité sort souvent de la bouche des enfants.
Tout à fait.
Voilà, nous avons épuisé tout notre temps sur la résurrection, si je puis dire. Voilà. Voilà, il nous reste l'éternité, mais pas hélas à la radio. Voilà, nous avons terminé ce cycle d'émissions sur la résurrection et nous vous rejoindrons prochainement pour parler de Luther à l'occasion des 500 ans, de la commémoration des 500 ans de la Réforme. Chers auditeurs, à bientôt. Merci aux intervenants et merci à Thibault, notre technicien.